De 2008 à 2014, Olivier de Schutter est le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme à l'Organisation des Nations Unies. Professeur de droit international à l'UCL, il est, depuis 2015, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Le 24 septembre 2017, il était invité par la coopérative de la ferme du Champ d'Écaille à donner une conférence exceptionnelle sur l'agriculture urbaine et les circuits courts d'alimentation. Du vert dans le gris, enregistré le 24 septembre 2017.
Pourquoi mettre du vert dans le gris? On peut mettre du vert en ville de différentes manières, par exemple en peignant des balcons ou des châssis dans cette couleur. Mais ici, je viens parler évidemment de la ferme du Champ d'Écaille et de l'agriculture urbaine. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vous parler un petit peu des débats qui entourent l'agriculture urbaine, en espérant que certaines des questions qui sont posées dans ces débats vous paraîtront pertinentes pour les initiatives qui se développent aujourd'hui à l'initiative des compagnons de la transition à Boisfort et des initiateurs de la ferme du Champ d'Écaille. Et puis je me réjouis évidemment de cet échange avec vous par la suite, après cet exposé introductif. Alors, l'agriculture urbaine, évidemment, elle se présente sous des formes nombreuses et variées, de plus en plus variées au cours des dernières années. Et on a des études aujourd'hui qui abordent aussi bien les jardins qui sont parfois développés à côté des écoles, les fermes urbaines, les potagers collectifs qui sont entretenus par des habitants d'un même quartier, ou encore on a un développement de ce qu'on appelle l'hydroponie ou des murs végétaux, des toits végétaux. L'agriculture urbaine prend ces différentes formes. Évidemment, ce que je vais évoquer aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces formes d'agriculture urbaine qui sont très différentes dans leurs impacts, dans leur intérêt, par exemple, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'alimentation dans les villes. Je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus. Ce sont les potagers collectifs urbains qui sont mis sur pied, entretenus par les communautés qui en prennent l'initiative. Et je voudrais essayer de poser essentiellement trois questions en renvoyant pour le surplus à une étude que je trouve assez intéressante, publiée en 2006, qui tente de faire une sorte de synthèse de la littérature scientifique qui existe sur les avantages et les limites de l'agriculture urbaine. C'est une étude faite à partir des États-Unis, mais qui couvre toute une série d'exemples dans différentes parties du monde occidental. Et je voudrais tenter de poser trois questions. Les promesses, d'abord, évidemment, des initiatives d'agriculture urbaine portées par les communautés locales. Les conditions auxquelles ces initiatives peuvent s'épanouir, se développer. Et troisièmement, la question de savoir comment elles peuvent ensuite percoler, se diffuser, prendre peu à peu davantage d'importance dans nos paysages. Et je voudrais, pour commencer par le premier point, celui des promesses, évoquer les quelques avantages que l'on reconnaît aujourd'hui à l'agriculture urbaine, et plus particulièrement encore aux potagers collectifs urbains, comme celui de la ferme du Champ d'Écaille, en soulignant que ces avantages sont variés et que ce n'est pas toujours les avantages les plus évidents qui sont en fait les plus importants. Je m'explique. Un premier atout de l'agriculture urbaine et de ses potagers collectifs, c'est que cela a un impact mesurable sur l'évolution des comportements alimentaires. On a maintenant des études relativement peu nombreuses, mais de plus en plus complètes par le panel d'exemples qu'elles examinent, ces études, qui montrent que les personnes qui s'investissent dans ces potagers collectifs urbains vont non seulement, par la consommation de légumes qu'elles cultivent elles-mêmes, améliorer leur alimentation, mais surtout vont réexaminer leurs modes alimentaires de manière plus fondamentale, systématique et régulière, et que les impacts positifs en termes d'habitudes alimentaires sont des impacts durables pour les familles qui se consacrent à cette activité et qui investissent un peu de leur temps, quelques fois par mois, à développer avec d'autres ces potagers collectifs urbains. Par exemple, cette étude qui est parue en 2006 a examiné 180 familles qui ont rejoint un schéma qui s'appelle là-bas Community Supported Agriculture, qui correspond en Belgique à nos GASAP, nos groupes d'achat solidaires de la culture paysanne. Et cette étude montre que le fait de devoir recevoir chaque semaine, chaque mois, des légumes inconnus, s'informer sur la manière de les cuisiner, partager avec les voisins des recettes pour savoir comment les préparer, etc. Ça avait un impact, non seulement, évidemment, en raison des légumes qu'on consomme, mais également, cela stimule la curiosité pour d'autres légumes. Cela permet de développer le goût dans des directions nouvelles, de varier son alimentation. Et les impacts sur la santé sont des impacts durables et vérifiables pour les familles qui rentrent dans ce genre d'initiative. Et cette étude examine ces impacts en partant d'un modèle du comportement alimentaire qui définit celui-ci comme étant le résultat de trois composantes. L'information dont on dispose qui permet de s'alimenter mieux dès lors qu'on reçoit des informations plus complètes et plus utilisables sur les bonnes habitudes alimentaires. La motivation qui résulte notamment du fait qu'on ne se sent pas tout seul dans l'adaptation de ses choix alimentaires, on se sent encouragé, stimulé dans ses choix. Et puis, on développe des compétences. On apprend comment cuisiner ces légumes nouveaux. On développe une palette nouvelle de compétences qui permettent de varier son alimentation. Et donc, ce sont ces trois facteurs combinés et interdépendants qui expliquent les changements d'habitudes alimentaires. On a une étude assez semblable qui est parue en 2011, là aussi, sur les changements d'habitudes alimentaires qu'impliquent ces innovations dans les systèmes alimentaires. Et ici, c'est centré sur les jardins potagers collectifs. Une étude de 2011, donc un peu plus ancienne, qui a examiné dans le Colorado 58 communautés qui avaient lancé des jardins potagers collectifs. Et on a mesuré l'évolution de leurs habitudes alimentaires en comparant leurs habitudes alimentaires avant qu'elles rejoignent cette initiative et après, en cours de développement de l'initiative. Et cette étude confirme ce que je mentionnais, c'est un impact tout à fait important et positif sur la manière dont les gens s'alimentent. Et c'est vrai que quand on met sur pied un potager collectif urbain, parfois l'attrait de l'initiative vient de ce que l'on veut être en mesure de produire des légumes de meilleure qualité. L'on veut pouvoir comprendre comment mieux s'alimenter, améliorer son ordinaire. C'est une motivation qui, en fait, généralement, n'est pas la motivation principale des personnes qui rejoignent ces initiatives, mais cela peut être, pour certains, un motif supplémentaire de s'y investir. Alors, un deuxième avantage de l'agriculture urbaine, qui est généralement aussi mis en avant, c'est sa contribution à la qualité de l'air dans les espaces urbains, et sa contribution sur d'autres plans à l'amélioration de l'environnement et au maintien des écosystèmes. Et ici, je dirais qu'il y a en général cinq avantages environnementaux qui découlent du développement d'espaces verts en général et de l'agriculture urbaine en particulier dans les villes. D'abord, la végétation peut capter certains gaz polluants qui sont les résultats des modes de vie urbains en raison du chauffage, du transport, des activités que l'on développe dans les villes, y compris des activités qui résultent dans la diffusion de particules fines. Et vous savez qu'à Bruxelles, c'est un problème particulièrement important. Et donc la végétation peut capter ces gaz, réduire par conséquent cette pollution locale et particulièrement problématique pour la santé à long terme. Deuxièmement, comme vous le savez, avec les changements climatiques qui s'annoncent, les villes seront des lieux où les températures vont monter beaucoup plus rapidement que dans les zones rurales. Et dans les années qui viennent, on va faire face de plus en plus fréquemment à des canicules qui auront un impact important sur la santé de certaines populations fragiles. Les enfants en bas âge, les personnes très âgées qui sont plus fragiles et qui ont des problèmes respiratoires plus facilement. Et la végétation peut limiter cette hausse des températures dans les espaces urbains par ce qu'on appelle l'évapotranspiration et qui illustre ce schéma ici. Les feuilles transpirent et émettent une humidité dans l'air qui permet d'atténuer la température et donc de réduire le sentiment ou la sensation de chaleur. Et lorsqu'on a des terres qui ne sont pas artificialisées, des terres qui captent l'humidité, cette humidité s'évapore lorsque la chaleur augmente. Et donc cette évaporation de l'humidité dans les terres permet de limiter l'impact de ces canicules sur les personnes qui habitent dans les villes. Troisièmement, quand on a des espaces verts nombreux dans les villes, l'eau qui tombe, et elle va tomber, l'eau de manière plus irrégulière à l'avenir, avec des précipitations dont on s'attend à ce qu'elles soient plus importantes lorsqu'elles se déclenchent, les espaces permettent d'absorber cette eau, d'éviter par conséquent les problèmes qui peuvent être liés à des inondations. Le sol peut fonctionner comme une éponge, si vous voulez, tant qu'il n'est pas bétonné, artificialisé, cimenté, imperméabilisé. Et donc c'est cela aussi que permettent de faire les espaces verts. Quatrièmement, ces espaces permettent d'abriter les pollinisateurs, y compris les abeilles, qui permettent par conséquent de favoriser la fécondation des plantes à fleurs, dont dépendent, vous savez, une partie très importante de notre alimentation. Et enfin, cinquièmement, les espaces verts sont aussi un lieu où peut s'effectuer le compostage des déchets organiques et donc le recyclage de ce qui, sinon, serait gaspillé ou ne serait pas réintégré dans les circuits de production. Et donc, voilà tous les avantages que les espaces verts présentent et qui expliquent en partie l'intérêt des politiques à développer des lieux comme la ferme du Champ d'Écailles qui permettent de se rendre ces différents services environnementaux aux communautés avoisinantes. En réalité, ce n'est ni pour une alimentation plus saine, ni pour lutter contre le changement climatique ou améliorer la qualité de l'air dans les villes, qu'en général, les gens s'investissent dans des potagers collectifs urbains et dans des initiatives comparables qui visent à mettre du vert dans le gris. C'est principalement parce que chacun ressent que par ce genre d'initiative, on peut recréer des liens sociaux, retisser des liens de convivialité et développer la gestion ensemble d'un commun qui va permettre à chacun de se sentir membre d'une communauté où se développent des liens de solidarité, voire d'amitié. Et il me semble qu'il y a là ici d'abord une motivation principale, prioritaire pour la plupart des gens qui s'investissent dans ce genre d'initiative, et puis il y a des bénéfices pour la collectivité dans son ensemble, qui sont extrêmement importants, quoi qu'ils soient parfois sous-estimés par les autorités publiques. Et je voudrais, pour développer un peu ce point qui me tient particulièrement à cœur et qui me paraît spécialement important pour expliquer mon enthousiasme pour la ferme du Champ d'Écailles, je voudrais partir du travail d'un sociologue américain qui est à l'université de Harvard, qui s'appelle Robert Putnam, et qui a publié en 2000 cet ouvrage important qui s'appelle « Bowling Alone ». Alors, vous savez peut-être lire le titre, mais le sous-titre, sans doute pas de là où vous êtes. Le sous-titre, c'est « The Collapse and Revival of American Community ». La chute et la résurrection, revival, de la communauté américaine. Et ce que Robert Putnam tente de faire dans ce livre, c'est de mesurer comment, depuis les années 60, la population américaine s'inscrit ou non dans des collectifs et se mettent au service ou non de la collectivité. Alors, Putnam prend toute une série d'indicateurs, le nombre de fois où l'on invite des voisins à partager un repas avec eux, le nombre d'associations dans lesquelles on investit, le temps que l'on passe à des activités bénévoles de soutien à des organisations et à des causes collectives. Bref, il trace, à partir de toute une série d'indicateurs, une sorte de continuum de spectre entre l'individualisme et la recherche de la satisfaction égoïste dans le privé ou l'investissement dans le collectif. Et ce qui est le résultat de son enquête, et c'est vraiment d'une enquête dont il s'agit, est assez déprimant parce qu'il constate qu'après un pic dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70, lié aussi à la mobilisation contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, pour les droits des femmes, etc., par la suite, ce investissement dans le collectif a chuté de manière dramatique. Les gens ont consacré beaucoup moins de temps les uns aux autres. Ils se sont repliés sur leur sphère privée, sur leurs préoccupations égoïstes immédiates. Et c'est cela qu'il décrit de manière un peu métaphorique par ce titre « Bowling Alone ». Les gens auparavant sortaient ensemble, faisaient la fête ensemble, tissaient des liens sociaux dans leur environnement immédiat, se connaissaient dans la rue. Et aujourd'hui, au moment où il écrit, on est en 2000, ces liens se sont dissous. La communauté américaine n'existe plus. Alors, il s'interroge évidemment sur les raisons de ce déclin de ce qu'il appelle le capital social. Alors, on connaît le capital physique, qu'il soit naturel ou artificiel, on connaît le capital financier, on le connaît d'une certaine manière que trop, on connaît le capital humain, les qualifications des gens, etc. Mais le capital social est une notion difficile à mesurer et pourtant extrêmement importante pour, je dirais, la capacité pour une communauté de trouver des solutions et pour la possibilité pour les gens de se sortir de leurs difficultés par les réseaux sociaux plus ou moins riches dans lesquels ils sont imbriqués. Et Putnam se pose la question de savoir pourquoi, au fond, depuis les années 80, il situe le glissement autour de 1978-1980, depuis les années 80, le capital social aux États-Unis a chuté. Et il en donne, en fait, quatre raisons. La première, c'est l'importance qu'a pris le travail dans l'activité quotidienne. Alors, on a toujours travaillé, mais ce qu'il constate, c'est que pour maintenir un niveau de consommation toujours plus élevé permettant de rivaliser avec le voisin, les gens, en fait, consacrent un temps plus considérable que par le passé au travail quand ils en ont un, et que ce travail mobilise beaucoup d'énergie, notamment parce que le travail, ce n'est pas seulement le temps que l'on passe au travail, ce sont les navettes, c'est les formations pour se préparer au travail, c'est la récupération après le travail. Et donc le travail, au fond, monopolise nos existences. Et les gens sont trop fatigués pour s'investir dans autre chose quand ils travaillent beaucoup. Premier facteur. Deuxième facteur, c'est l'organisation de l'espace. Chez nous, comme aux États-Unis, l'espace s'est étendu depuis les années 50. Je veux dire par là que les gens habitent de plus en plus loin du travail qu'ils ont. Les écoles des enfants sont souvent plus éloignées que par le passé du domicile. L'on va faire ses courses dans les banlieues, là où sont les grands supermarchés ou les décathlons, etc. Et l'on a encore des activités de loisirs qui sont parfois très éloignées de son domicile. Ceci veut dire non seulement qu'on passe beaucoup de temps dans les déplacements, et c'est cela en moins que l'on peut investir dans les liens sociaux, dans son environnement immédiat. Mais en outre, cela signifie qu'on se sentira beaucoup moins solidaire du lieu que l'on habite. Après tout, si l'on travaille loin, si l'école des enfants est très éloignée, si l'on va faire ses courses ailleurs que chez le boucher du coin, on n'a pas de raison particulière de se sentir solidaire des voisins qui vous entourent. Et donc, la manière dont les villes se sont étendues, la manière dont on a allongé les distances grâce à la diffusion générale de la voiture individuelle qui donne l'illusion que, au fond, les distances ne comptent plus, explique en grande partie ce déclin du capital social. Alors, troisième facteur, c'est la télévision. À l'époque où Putnam termine son enquête, un adolescent américain moyen passe près de 3 heures par jour devant le petit écran. Aujourd'hui, la télévision est beaucoup moins attrayante pour les jeunes, mais évidemment, Internet a remplacé et même dépassé la télévision dans le temps que cela absorbe. Alors, il y a des aspects évidemment positifs, merveilleux, à Internet, y compris par les réseaux sociaux que cela permet d'entretenir, mais il y a aussi parfois une dépendance, un isolement à quoi ceci peut correspondre. J'étais l'autre jour à Martelange et je donnais une conférence sur le bonheur. Et quelqu'un est venu me voir après, un jeune qui avait 17 ans, et m'a parlé, il exagérait évidemment, mais il m'a parlé de 70 millions de gens dans le monde qui sont des addicts, je crois que c'est le mot qu'il utilisait, des jeux sur Internet. Et lui en était. Donc il est venu me voir dans l'espoir d'une sorte de conseil. Je manquais d'imagination évidemment pour lui répondre, mais c'était vraiment pour lui un vrai problème que de sortir de sa bulle, hein, et j'allais dire de sa sphère virtuelle sur Internet. C'est un problème qui doit de plus en plus nous préoccuper. Alors, quatrièmement, il y a simplement ce qu'il appelle le changement de génération. C'est vrai que les jeunes, depuis les années 80, ont vu avec une certaine méfiance, avec peut-être un certain scepticisme, l'investissement de leurs aînés dans des causes comme celles que j'ai évoquées dans les années 60. nous en sommes revenus. Je me rappelle que quand moi j'ai terminé mes études en 1990, on était en fait, si j'en juge par les enquêtes comme celles que Putnam a faites, on était à la crête de l'individualisme et du repli sur la sphère privée. Et tout ce qui concernait l'investissement dans la politique, dans l'associatif, dans le syndical, était vu comme vieux jeu. Hein ? Et donc, on ne veut pas reproduire le modèle des parents militants, engagés, flower power, etc. Et donc, on se replie sur la sphère privée. Alors, je mentionne cela parce que Putnam termine son ouvrage en 2000, et je crois profondément qu'on est en train de vivre une sorte de contre-révolution. Pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ou d'expliciter ici, je pense que les jeunes aujourd'hui qui ont 25, qui ont 30 ans, c'est à eux que j'enseigne, notamment à l'université, ils veulent précisément sortir de cet individualisme, de ce privativisme qui a caractérisé ma génération. Et donc, c'est une occasion à saisir, je crois, que cet appétit pour la constitution ou la reconstitution de ce capital social aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque cela ? Bien, parce que la question de l'espace... Je viens d'y faire allusion, mais la question de l'espace a un rôle extrêmement important à jouer dans la création de ces liens sociaux. D'ailleurs, celles et ceux que cela intéresse peuvent lire une étude faite en novembre, enfin publiée en novembre 2016 par Kathy Baldwin et par Robin King. Le titre, c'est « What about the people ?» Et ils étudient l'architecture urbaine, les plans d'aménagement du territoire, et la manière dont l'espace urbain est organisé, est-ce que cela sert à créer des communautés où les gens sont en confiance, où la violence est contenue, où des liens de confiance peuvent s'instaurer entre les personnes, et quelle est la responsabilité des concepteurs des infrastructures urbaines dans ce domaine ? Et une des conclusions qui ressort de cette étude très complète sur des dizaines de villes dans le monde, c'est qu'il faut créer dans les villes des lieux où les gens de divers horizons se rencontrent, des espaces qu'ils puissent occuper afin de se parler, de créer des liens de confiance ou dissoudre la méfiance entre personnes d'origine diverse. Et c'est la recommandation principale qui ressort de leur étude, c'est ce besoin de ce qu'ils appellent des community spaces, des espaces communautaires. Et je pense qu'un espace comme la ferme du Champ d'Écailles, eh bien c'est cela aussi. C'est vrai qu'on y produit des légumes, c'est vrai qu'on absorbe des particules fines, c'est vrai qu'on entretient les sols, c'est vrai que l'on fait du bien à la ville, mais c'est aussi un lieu où les gens sentent qu'ils peuvent nouer des conversations, nouer des liens avec d'autres et construire des projets collectifs. Et toutes les études qui aujourd'hui portent sur la manière de reconstituer le capital social en ville insistent sur cette dimension spatiale, géographique, d'infrastructure dans ce défi. Alors, pourquoi est-ce que ceci est important ? Eh bien, il y a beaucoup de raisons, en fait, beaucoup plus que trois, de se préoccuper du capital social, mais j'ai tenté de regrouper en trois arguments principaux ce que je voudrais dire là-dessus. D'abord, évidemment, le capital social, c'est-à-dire des liens de confiance qui se tissent au sein d'une communauté, qui partagent un même espace, cela permet d'intégrer des gens d'origine socio-économique géographiques, ethniques, diverses, de nouer des contacts entre générations, de rompre donc l'isolement, la solitude, qui est en fait une des principales sources de vulnérabilité aujourd'hui, et qui est souvent d'ailleurs étroitement liée à la pauvreté monétaire elle-même. On est pauvre sur le plan monétaire, donc on a moins de liens sociaux, parce qu'on a honte de se présenter en public et on ne se sent pas à la hauteur des attentes des voisins. Et parce qu'on a moins de liens sociaux, quand on a un problème financier, on n'arrive pas à rebondir, on est perdu, on a plus de mal à trouver un emploi, etc. Donc je pense qu'il y a là un premier argument extrêmement important pour reconstituer ce capital social, c'est la fonction d'intégration que remplissent ces réseaux sociaux. Deuxièmement, quand des communautés ainsi se reconstituent, elles peuvent, à partir d'un premier projet, en inventer d'autres. On part d'un potager collectif, mais ensuite, l'on va se poser la question du recyclage des déchets, l'on va se poser la question de la défense des arbres du parc d'en face dont on veut élaguer, on va se poser la question de savoir comment on peut encourager les écoles du voisinage à se fournir auprès de producteurs locaux qui produisent selon les prescriptions de l'agroécologie. Et donc, à partir du moment où une communauté est constituée, où les gens se connaissent, où des listservs circulent et des pages Facebook se créent, il devient beaucoup plus facile de peser dans les choix politiques. Et croyez-moi, il y a ici des échevins dans la salle, les politiques, très souvent, ont besoin d'un interlocuteur face à eux auquel ils puissent se référer, avec lequel ils puissent entrer en dialogue pour comprendre les attentes des personnes. Ce n'est pas facile pour un ou une politique de n'avoir face à lui, face à elle, que des individus atomisés, sans lien les uns avec les autres. Et quand ils ont un projet politique à faire passer, qu'ils peuvent compter sur le soutien d'un groupe déjà constitué, quand ils ont l'impression de pouvoir répondre à une attente structurée par ce groupe, c'est au fond une manière pour les politiques d'être davantage aiguillés, d'avoir une boussole à laquelle se référer et au fond de renforcer l'efficacité de leur action. Troisièmement, quand on a comme ça une communauté qui se constitue et qui reconstitue ce capital social, les gens se transforment. Bon, j'enseigne un cours qui s'appelle « Théorie du droit et pensée juridique contemporaine » et j'examine notamment dans ce cours tout le récit qui est fait depuis deux siècles sur qui nous sommes. Et j'examine dans ce cours comment les économistes, comment les psychologues, comment les politologues abordent la nature humaine. Et le récit dominant qui est fait, c'est celui de l'homo economicus, c'est celui d'être rationnel, maximisateur de leur utilité, égoïste, qui ne recherche que leur intérêt personnel. Et toute la dimension pro-sociale et pro-environnementale, bref, altruiste de nos comportements, sont en fait éradiquées de ce récit collectif dominant. Et d'ailleurs, c'est un problème, parce que ce récit est performatif, il a des conséquences sur la manière dont nous nous représentons nous-mêmes, et donc dans la manière dont nous agissons. Je pense que c'est vraiment pervers. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les gens qui ont étudié l'économie sont plus égoïstes que les autres, parce qu'ils calculent, selon les préceptes de la science qu'ils maîtrisent, les choix à faire qui doivent être rationnels, c'est-à-dire répondre aux calculs coût-bénéfice. C'est inquiétant de voir que ce récit est devenu tellement dominant et en fait nous influence beaucoup plus que nous n'osons l'avouer à nous-mêmes. Mais justement, le fait de passer du temps ensemble, de construire des projets ensemble, de maintenir ensemble un commun, transforme notre rapport les uns aux autres et notre rapport à la nature. Il y a une étude faite il y a quelques années, c'est une étude de 2014, par Angela Sanguinetti à l'Université de Californie à Irvine, qui a tenté de suivre les familles qui se mettaient en habitat partagé. Alors, au départ, pourquoi faisait-elle cela ? D'abord parce que les personnes plus âgées voulaient de l'intergénérationnel, ne pas être isolées mais être au contact de familles plus jeunes et d'enfants. Aussi parce que ça permet d'économiser de l'argent, ça coûte moins cher quand on partage une machine à laver, une salle de séjour, etc., ou une salle des fêtes. Mais, donc elle le faisait pour des motifs éventuellement égoïstes, l'habitat partagé. Mais au fur et à mesure que les familles s'investissaient dans cet habitat partagé, le rapport qu'elles entretenaient les unes aux autres et le rapport qu'elles entretenaient à l'environnement n'a cessé d'évoluer, leur comportement est devenu plus pro-social et pro-environnemental. Et pour illustrer cela, Angela Sanguinetti utilise, au fond, une image visuelle qui est commode, en montrant comment, au départ, le soi et la nature sont séparés, mais qu'au fil de l'habitat partagé, au fil des mois et des années passées ensemble en habitat partagé, finalement, l'on se sent solidaire de l'environnement qu'on habite, et l'on comprend beaucoup mieux cette interdépendance qui nous lie aux écosystèmes dont nous dépendons. De même, on se sentait séparé de la communauté, et au fur et à mesure que l'on s'inscrit dans l'habitat partagé, que l'on commence à mieux entretenir ensemble ces communs et à construire ces liens de confiance, progressivement, l'on ne fait plus faire cette distinction entre soi et la communauté, et au fond, cette communauté est devenue sa grande famille. Et donc, c'est intéressant de voir comment les familles ont évolué à mesure qu'elles ont été obligées de construire ensemble des solutions dans ces habitats partagés. Alors, cela dit, je ne veux pas idéaliser les choses, et je ne veux pas sous-estimer les difficultés, et je voudrais parler aussi de trois limites importantes qui sont peut-être des défis que vous rencontrez ici, à Boisfort, notamment autour du projet de la ferme du Champ d'Écailles. Le premier défi, c'est, pour reprendre le langage de Robert Putnam, que le bonding ne l'emporte pas sur le bridging. Que veut-il dire par là ? Il veut dire par là que quand des gens travaillent ensemble sur un projet collectif, ils constituent des liens de plus en plus forts les uns avec les autres, des liens de solidarité, d'amitié, ils vont se porter secours les uns aux autres. Ça, c'est le bonding. Et éventuellement, cela débouche sur des formes de solidarité extrêmement, extrêmement fortes entre ces personnes. Mais d'un autre côté, il y a le besoin de s'ouvrir à la différence, d'inclure des personnes avec des horizons socio-économiques, ethniques, linguistiques, variés. Et ça, c'est le bridging. Et parfois, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Pour dire les choses autrement, plus un groupe est soudé par une expérience partagée, par une solidarité nouée entre eux, et plus ce groupe pourra être difficile d'approche pour des personnes éloignées de ce groupe, qui veulent malgré tout rejoindre une initiative, mais qui ne se sentent pas partie de la famille, en fait. Et donc, c'est à mon avis un vrai défi. Et il y a maintenant, c'est très récent, cette préoccupation sur ce rapport entre le bridging et le bonding, mais il y a de plus en plus d'études qui portent sur cette question. Je retiens, par exemple, deux études qui portent sur Melbourne, une première qui a été faite en 2006, et qui a tenté de travailler sur ces jardins potagers collectifs, ces community gardens, en tentant de montrer, de mesurer en fait, le rapport entre le bonding et le bridging. Alors, il n'y a pas de conclusion dans cette étude, mais le danger est bien que l'on oublie l'impératif du bridging, de l'ouverture à la différence, de l'inclusion, de la diversité, parce que l'on privilégie l'approfondissement des rapports entre soi. Hein. Et d'ailleurs, vous avez l'expression « dig in to social capital ». Le « dig in », c'est l'approfondir, c'est qu'on crée des liens très forts entre les membres, au risque, au fond, de rendre l'entrée dans le cercle des impétrants plus difficile à réussir. Et quelques années plus tard, une seconde étude, également sur Melbourne, également sur ces mêmes jardins potagers communautaires, a été faite, mesurant spécifiquement comment les populations immigrées arrivaient à s'inscrire dans ces initiatives. Très intéressant. Et ce que cette étude montre, c'est que lorsque des personnes d'origine étrangère, en fait, c'est des immigrés récemment arrivés en Australie, voulaient s'inscrire dans ces initiatives, elles parvenaient à le faire lorsqu'elles avaient des choses à apporter et lorsqu'on valorisait ce qu'elles avaient à apporter. Par exemple, parce qu'elles avaient jardiné dans leur pays d'origine et qu'elles avaient un talent qu'elles pouvaient faire valoir, ou bien parce qu'elles avaient des habitudes alimentaires différentes, elles pouvaient, par exemple, enseigner des recettes pour cuisiner, des nouveaux légumes, etc. Et ça me rappelle d'ailleurs une discussion que j'avais avec des animateurs de la ceinture alimentaire liégeoise, que vous connaissez, hein, qui est une magnifique initiative conduite par les Compagnons de la Terre et d'autres à Liège. Et à Liège, il y a une population d'origine italienne assez importante, parfois économiquement relativement défavorisés. Et l'inclusion de ces communautés italiennes dans l'ensemble d'initiatives de la ceinture alimentaire liégeoise a notamment été rendue possible par le fait qu'on valorisait la cuisine italienne et qu'on a demandé à ces familles d'enseigner les recettes italiennes aux autres membres de la communauté. Et donc, c'est peut-être des études intéressantes pour nous ouvrir notre imagination quant à, pour nous permettre de comprendre comment rencontrer ce premier défi. Deuxième défi, c'est que nous avons dans des initiatives comme ces jardins potagers collectifs urbains, un rapport entre des bénévoles, qui sont des gens magnifiques, qui consacrent à ce jardin leur week-end, leur soirée, qui ne comptent pas le temps et l'énergie qu'elles dépensent. Voilà. Je ne vais pas les citer parce que c'est modeste, mais elles savent que je pense à elles. Et puis, il y a des professionnels. C'est vrai. Des maraîchers qui doivent vivre de leur métier, qui doivent rendre des comptes à la fin de l'année, qui ont des dépenses, hein, des coûts qu'ils doivent rencontrer. Et cette complémentarité est parfois difficile à établir, cet équilibre parfois difficile à trouver. Entre d'un côté des choix qui sont motivés par le souci, au fond, d'animer un collectif, de créer des liens sociaux et de passer un moment ensemble, et puis les exigences d'être sinon très profitable, en tout cas viable du point de vue économique. Et je pense que c'est un vrai défi. Je ne sais pas, donc j'ai rien à dire là-dessus. Je ne sais pas comment vous l'avez rencontré dans l'organisation de la ferme du Champ des Cailles, mais je pense que c'est vraiment, ça m'intéresserait moi vraiment de vous entendre là-dessus, parce que c'est un défi que je vois affronter, enfin que je vois beaucoup d'initiatives de transition dans le domaine alimentaire affronter régulièrement, et il n'y a pas vraiment de recette miracle qui permet de surmonter cela. Mais je pense qu'avoir conscience de cette possibilité de tension, c'est déjà important, parce que ça permet d'en parler de manière plus ouverte et franche. Alors, troisième difficulté, comme scientifique, je dois en faire état, bien que je ne partage pas vraiment cette crainte, mais c'est le défi ou la peur de la cooptation dans un projet qu'on appelle de manière un peu facile néolibéral. Je n'aime pas l'expression néolibéral qui est utilisée à toutes les sauces, mais en substance, de quoi s'agit-il ? C'est de la tentation parfois pour les autorités publiques de se retirer de certains services ou de ne plus s'investir dans certains services à la population, de ne plus prendre certaines initiatives, parce qu'après tout, la communauté le fait assez bien elle-même. David Cameron, vous vous rappelez, ce politicien qui a maintenant, qui est sous l'eau et qui était Premier ministre du Royaume-Uni pendant quelques années, eh bien David Cameron avait inauguré son mandat en parlant de cette idée de la « big community ». C'était quoi la « big community » ? En fait, c'était, dans son langage un peu codé, c'était « l'État va se retirer de certains services, notamment aux communautés les plus défavorisées, et va plutôt encourager ces communautés à se prendre en charge elles-mêmes ». Et c'est très dangereux, parce qu'à la fois, on peut vouloir que les communautés soient résilientes, qu'il y ait des liens de solidarité, d'entraide, etc., mais ça ne peut pas devenir un prétexte donné à l'État pour se défausser de ses responsabilités. Et dans cet article qu'il a publié en 2014, Nate McClintock ironise sur les garden variety neoliberals, donc les néolibéraux de type jardinier, en disant, après tout, l'agriculture urbaine, les potagers collectifs urbains posent cette question. Après tout, est-ce que ce n'est pas le rôle de la collectivité que de fournir une alimentation saine et adéquate à ses membres ? Est-ce que ce n'est pas à eux d'assurer l'intégration sociale ? Est-ce que ces espaces verts ne devraient pas être entretenus par d'autres que par des bénévoles qui y consacrent leur soirée et leur week-end ? Et là encore, je pense en fait qu'il a, dans la très grande majorité des cas, tort d'énoncer ce risque, parce que ce risque est en fait très rarement réalisé ou se vérifie très rarement, mais au moins, son article présente-t-il l'avantage d'attirer notre attention sur ce danger et de montrer que l'agriculture urbaine peut à la fois nous permettre de mieux contrôler nos moyens de production, nous permettre d'acquérir des nouvelles compétences, de se sentir maître de notre alimentation, et ça peut permettre de développer des communs et de contester la privatisation de tout l'espace public ou son contrôle par l'autorité centrale, j'y reviendrai. Donc il y a toute une série d'aspects très positifs à l'agriculture urbaine, mais il y a un risque, effectivement, que l'esprit entrepreneurial soit mal interprété, soit pris comme un prétexte pour l'État de se retirer de certains services qu'il rendait, et qu'au fond, l'on serve un discours qui est un discours où chaque communauté va prendre soin d'elle-même et où l'État peut se défausser sur elle pour ne pas rendre ses services. Donc je pense que c'est une question importante à poser. C'est un danger auquel, je pense, il faut demeurer attentif. Alors, j'ai évoqué la question des communs et je voudrais ici simplement dire qu'il y a d'autres avantages à l'agriculture urbaine, notamment au développement de jardins potagers collectifs, mais je ne vais pas développer ces autres avantages de soutenir l'économie locale, par exemple de créer des emplois, et je sais que la ferme du Champ des Cailles peut se vanter d'un bilan remarquable sur ce plan-là. Ça peut être une source d'apprentissage collectif, une source d'inspiration pour d'autres. Mais je voudrais m'attarder plus, pour terminer, sur les facteurs de succès et sur les trois débats qui concerne, je dirais, l'environnement qu'il faut créer pour que ces initiatives puissent se déployer et pour que ces jardins potagers collectifs puissent s'épanouir. D'abord, une première remarque, c'est que ces jardins potagers collectifs sont ce qu'on appelle des communs. Certains d'entre vous ont travaillé sur cette notion mise au goût du jour, notamment par les travaux de Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, elle a publié en 1990 un livre magnifique qui s'appelle « Governing the Commons », traduit en français, je ne sais plus sous quel titre, mais traduit en français chez De Boeck Université. Et lorsqu'elle publie son livre en 1990, en fait, c'est une réponse au monsieur qui s'appelle Garrett Hardin, qui avait publié en 1968 un article célèbre qui s'appelle « The Tragedy of the Commons », la tragédie des communs. La thèse de Garrett Hardin, c'était que quand on avait un commun, et son exemple est celui du pâturage, qui est ouvert à tous, que chacun peut utiliser pour y faire paître son bétail, c'est que quand on a un commun, ce commun va nécessairement s'affaisser, se détruire, parce que chacun étant égoïste, étant motivé par son utilité immédiate, n'ayant pas le souci du collectif, va en fait amener ses bêtes pâturées sur ce pâturage commun, et le surpâturage va forcément découler de la combinaison de tous ces comportements égoïstes combinés. Donc Garrett Hardin, au fond, nous dit il faut soit privatiser, clôturer, soit donner à l'État le mandat de contrôler de manière autoritaire l'usage de ce lieu commun, parce que sinon la ressource commune va être dilapidée, elle va s'écrouler. Pourquoi ? Parce que les individus se comportent de manière parfaitement rationnelle, donc de manière parfaitement égoïste, intéressée, et ne voient que leur intérêt de court terme. Et ce que fait Elinor Ostrom dans son ouvrage de 1990, c'est qu'elle montre des dizaines d'exemples d'entretien de lacs, de pâturages, de forêts, de rivières, où des communautés, sans injonction de l'État et sans privatisation, ont pu gérer ces communs de manière satisfaisante, dans le long terme, de manière durable. Donc, elle montre au fond que nous sommes capables de nous entendre au niveau des communautés locales pour entretenir des communs de manière durable parce que nous sommes capables de comportements altruistes, prosociaux, pro-environnementaux. Nous ne sommes pas, en d'autres mots, obligés de répondre à cette fable que l'on nous a narrée depuis deux siècles, que nous ne serions que des êtres individualistes, égoïstes, motivés uniquement par la maximisation de notre utilité. Mais le problème, c'est que les communs, entretenus par des communautés, ne vivent pas sur la Lune, dans une sorte de stratosphère coupée du reste. Et qu'il y a un vrai défi aujourd'hui à situer ces communs, le projet de la ferme du Champ d'Écailles en est un exemple, par rapport à la fois au secteur marchand classique, privé, et par rapport au rôle des autorités publiques. Et prétendre qu'on peut ne pas tenir compte de ces autres acteurs est sans doute problématique. Et je voudrais évoquer cette question difficile à partir d'un schéma que propose Michel Bowens. Vous connaissez Michel Bowens, c'est un Belge, bien qu'il habite en Thaïlande, sa femme est thaïlandaise, et il est, je dirais, le principal porte-parole de ce mouvement du peer-to-peer, de l'économie du partage, notamment dans le domaine des logiciels d'accès libre, etc. Alors, Michel Bowens a été chargé, il y a quelques mois, par la ville de Gand, de faire une étude sur les communs à Gand. Comment peut-on utiliser les théories de Michel Bowens sur l'économie du partage pour donner à la ville de Gand un horizon, une trajectoire qui permette de valoriser ces initiatives locales des Gantois qui notamment entretiennent des communs. Et Bowens a étudié 500 initiatives à Gand en tentant de comprendre comment ces initiatives étaient ou n'étaient pas soutenues par les autorités publiques et comment elles entretenaient ou non des liens avec les acteurs du marché. Et ils mettent en avant, dans le rapport qui vient de sortir, qui vient de publier, ce schéma qui illustre bien, je crois, le défi. Vous avez une municipalité qu'il appelle la ville partenaire. La ville partenaire, ce n'est pas la ville qui dirige tout. Ce n'est pas le pouvoir communal ou municipal qui prend les décisions à la place des gens. La ville partenaire, c'est celle qui soutient ces initiatives en se mettant au service de ce que les citoyens veulent faire et qui correspond à leur appétit. Comment est-ce qu'elles soutiennent ? Eh bien, en fournissant les infrastructures là où cela est nécessaire, en fournissant un soutien financier qui répond à la demande et pas au projet politique de la municipalité en question. Donc, c'est autre chose que d'ordonner qu'il soit fait par le pouvoir budgétaire. C'est se mettre au service d'initiatives qui émergent en leur donnant un soutien afin de les encourager. C'est ensuite aider des acteurs économiques à commencer de se développer qui vont pouvoir émerger à partir de ces initiatives citoyennes pour que celles-ci soient économiquement viables. Et donc, tout l'enjeu dans cette étude de Michel Boens, c'est comment mettre ensemble ces trois acteurs, si vous voulez, ces citoyens qui ensemble développent des initiatives pour l'entretien des communs, mais aussi les autorités publiques qui doivent fournir le soutien nécessaire en termes d'infrastructures, de budget et de soutien par la modification des réglementations qui font obstacle au déploiement de ces initiatives. Et c'est enfin les acteurs du monde marchand qui visent le profit et qui sont nécessaires parfois pour que le projet puisse être économiquement viable. Et toute la difficulté, c'est évidemment que les acteurs du privé qui sont à droite ne viennent pas, en quelque sorte, cannibaliser l'initiative citoyenne, décourageant les bénévoles qui s'y investissent, et que la ville, dont on a besoin qu'elle soutienne l'initiative, ne vienne pas orienter l'initiative, forçant l'initiative à prendre une direction qui ne correspond pas à l'appétit des personnes qui s'y investissent. C'est cet équilibre qu'il faut réussir à trouver, mais la solution n'est pas de prétendre que ces acteurs publics-privés n'existent pas, qu'on peut se passer d'eux. Je pense que c'est illusoire. Je pense que tout le défi, c'est identifier les bons équilibres à trouver à partir d'un dialogue qu'il faut nouer aussi bien avec le politique qu'avec le monde marchand. Alors, une manière de faire cela, c'est d'inscrire ces initiatives d'agriculture urbaine, notamment les potagers collectifs urbains, dans une politique alimentaire urbaine. Et ça, c'est une question qui me tient à cœur depuis longtemps. Ce n'est pas une idée vraiment nouvelle. Il est intéressant de noter qu'elle a émergé, cette idée, dans le sud, et plus précisément dans la ville de Belo Horizonte, au Brésil, une ville de 3,5 millions d'habitants, dont le maire, Petros Ananias, a le premier compris le rôle important des villes dans la liaison qu'il fallait opérer entre les producteurs locaux et les habitants des favelas, les pauvres habitants de la ville de Belo Horizonte, et qui a développé toute une série de programmes, y compris des programmes de cantines scolaires, pour favoriser ce lien. Mais depuis, cette idée que les villes ont une responsabilité à jouer dans l'alimentation, s'est développée, et on a eu un moment important en octobre 2015, à Milan, quand on a conclu, à l'initiative du maire de Milan, le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines. Et c'est une initiative qui a réuni à l'époque 130 maires de villes de différentes tailles du monde entier. Aujourd'hui, elles doivent être à peu près 150. Et ces maires se sont engagés sur un ensemble de principes qu'il est un peu long de parcourir, mais c'est un pacte sur lequel ces maires s'engagent. Et à côté de ce pacte de politique alimentaire urbaine, qui est un engagement que les maires prennent, on a toute une série de bonnes pratiques qui sont recommandées. Et j'ai sélectionné dans ces bonnes pratiques, il y en a une quarantaine au total, les quelques recommandations qui me paraissent les plus pertinentes pour un projet comme celui de la ferme du Champ d'Écailles. Par exemple, dans le domaine de la gouvernance, l'on recommande de favoriser un dialogue politique avec la municipalité, incluant différents acteurs qui sont intéressés à la politique alimentaire de la ville dans des cercles de participation, ce qu'on appelle des conseils de politique alimentaire, j'y reviendrai, pour que, au fond, les différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans la politique alimentaire puissent s'entendre sur la vision qu'ils veulent adopter pour la ville. Je pense que c'est très important de créer ces espaces de démocratie alimentaire et je reviendrai là-dessus dans un instant. Deuxièmement, on recommande aux maires, aux municipalités, d'identifier, de localiser et d'évaluer les expériences locales et les initiatives alimentaires de la société civile afin de traduire les bonnes pratiques en programmes et en politiques adaptées avec l'aide d'organismes de recherche ou d'institutions académiques locales, et non pas locaux. En fait, ce que ceci veut dire, c'est que ces initiatives des citoyens ne doivent pas être vues avec méfiance par les autorités. Ce n'est pas une concurrence à la démocratie représentative ou à la possibilité pour les municipalités de conduire leur propre politique avec leurs priorités, c'est une chance dont il faut se saisir en donnant à ces initiatives la possibilité d'être mieux soutenues, de s'épanouir davantage à travers des programmes ou politiques adaptées. Le pacte de Milan recommande aussi que l'on promeuve l'initiative locale qui contribue à l'intégration sociale et qui fournit des aliments aux personnes marginalisées. Les jardins communautaires ont un rôle à jouer là-dedans. Et puis, le pacte de Milan énumère toute une série de bénéfices qui peuvent résulter de ces initiatives pour l'alimentation durable et saine des populations urbaines, ce qui suppose malgré tout des plans d'aménagement du territoire permettant à ces initiatives de se développer. C'est également ce que dit ce pacte de Milan. Alors, ce ne sont pas des mots, ce sont de nombreuses villes qui aujourd'hui commencent à se doter de ce type de stratégie. Et on a des exemples à Bristol, en 2011, où un conseil de politique alimentaire a été mis sur pied, où la mairie a délégué un membre qui a pu écouter ce que les participants à ce conseil de politique alimentaire disaient, et puis il a ramené ça au conseil municipal, et la municipalité est venue soutenir toute une série de programmes représentant ensemble ce qu'on appelle la Bristol Good Food Plan, qui s'est développée à partir de 2012, et qui, sur toute une série de domaines, a permis à Bristol de lutter contre la pauvreté alimentaire, c'est-à-dire la mauvaise alimentation des familles les plus défavorisées de la ville. On a également, à Malmö, en Suède, une ville qui a décidé de réduire dramatiquement son empreinte écologique, et notamment les émissions de gaz à effet de serre, et elle a compris qu'une manière de le faire, c'était de changer la manière dont les cantines alimentaires s'approvisionnaient, en réduisant la consommation de viande, remplacée par des légumes secs, en ayant des repas issus de l'agriculture biologique, et Malmö a progressé dans ces directions de manière spectaculaire. À Toronto, qui est un exemple souvent cité, parce que c'est peut-être le plus avancé, on a toute une série d'initiatives qui ont été adoptées dans le cadre de la stratégie alimentaire 2010 de Toronto, y compris, par exemple, ces petits camions qui vont dans les quartiers écouler la production des maraîchers locaux, permettant à ses habitants d'avoir accès à une alimentation de meilleure qualité parce qu'ils ont des déserts alimentaires très problématiques à Toronto et en même temps ouvrant des marchés nouveaux à ces producteurs maraîchers. On a des ventes de légumes, de produits maraîchers dans la gare de Toronto et dans différents lieux dans la ville. Et c'est un peu ce qu'on fait à Floref, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler des artisans paysans de Floref. Eh bien, c'est la même idée. Donc, la ville, de manière très explicite, favorise les chaînes courtes, les liens directs entre producteurs et consommateurs pour favoriser une meilleure alimentation et, en même temps, ouvrir des perspectives pour les producteurs locaux. En Belgique, deux exemples viennent à l'esprit. J'ai déjà évoqué la ceinture alimentaire liégeoise, qui est surtout une initiative de la société civile. Mais les deux autres exemples de politique conduite par les politiques, c'est Gand, avec le programme Gent en garde, lancé en 2013 par la majorité actuelle de la ville de Gand, et qui comprend tout un ensemble de programmes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Gand. Et parmi les programmes qui sont mis en œuvre, il y a un programme ambitieux de relocalisation du système agroalimentaire dont dépendent les habitants de la ville de Gand. Et ce programme est un peu long à détailler, mais il comprend notamment le soutien des chaînes courtes, favorisant l'accès des producteurs locaux aux consommateurs de la ville, l'encouragement par des campagnes d'information à la production et à la consommation durable, y compris par l'agriculture urbaine, le soutien à des initiatives citoyennes qui concernent l'alimentation, un plan ambitieux de réduction des pertes et gaspillages alimentaires, et enfin des politiques pour le recyclage et le compostage des déchets organiques alimentaires en particulier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les études qui sont faites maintenant, après 3 ou 4 ans de Gent en garde, mettent en avant que les projets qui sont soutenus par cette politique sont plus ou moins réussis selon qu'ils correspondent ou non à l'appétit des personnes, des quartiers concernés. Par exemple, on distingue dans une étude récente cette initiative qui est, certains d'entre vous connaissent peut-être, de Site à Gand. Ça se situe, en fait, dans l'ouest de la ville. Et c'est un quartier assez défavorisé, avec une forte proportion de population immigrée. Et on a demandé aux habitants de ce quartier, pauvre, ce qu'ils voulaient faire de ce grand terrain vague qui était en friche et dont on ne savait pas à quoi il pourrait être utilisé. Et ils auraient pu vouloir un parking pour leurs voitures, ils auraient pu vouloir des terrains de basket pour les jeunes, ils ont voulu un potager collectif. Et ce qui est remarquable, c'est que ce vœu a été exprimé par une population très hétérogène. On le devine d'ailleurs quand on voit les vêtements que portent les gens. C'est une population à forte, notamment issue de l'immigration, qui est résidente dans ce quartier. Mais cela a permis aux habitants de ce quartier de se réunir autour de ce projet, aux méfiances traditionnelles de se dissoudre, et à l'intégration de ces populations de progresser de manière remarquable. Et ce projet de site peut être contrasté avec un projet qui se situe un peu plus au sud, mais toujours dans le parti ouest de Gand, du côté de la Bourse Porte, pour qui connaît la ville de Gand, et qui répond beaucoup moins aux attentes des habitants du quartier, mais qui était un vœu de la municipalité, et qui n'a pas réussi à intégrer des populations d'origine variée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas consulté les habitants avant de lancer ce projet. On leur a présenté cela comme un service que la municipalité rendait, créer un espace vert, c'est magnifique, c'est très bien, c'est très chouette pour qui peut en profiter, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu au fond d'une demande des personnes du quartier. Et pour cette raison-là, les chercheurs qui travaillent sur Kent en garde disent que ce projet a beaucoup moins de chances d'avoir une vie longue et de pouvoir résister aux différentes épreuves qu'il va subir dans les années qui viennent. Alors, l'autre exemple, évidemment, c'est la stratégie Good Food, développée au niveau de la région de Bruxelles-Capitale par la ministre Céline Frémaux, qui, en fait, a hérité d'un projet magnifique qui avait été lancé en 2009-2010, qu'on appelait les projets de quartiers citoyens durables, lancés par Evelyn Uyttebroeck à l'époque. Et cette stratégie Good Food a été annoncée, je crois, il y a 2 ans maintenant. Et c'est toute une série d'actions que la région de Bruxelles-Capitale prétend ou propose de soutenir et qui se décompose en 5 grands axes. Je ne vais pas tous les détailler, je vous rassure, mais ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai souligné ici en vert, puisqu'il est question de favoriser l'autoproduction durable. L'objectif, c'est qu'en 2020, on aura 2 fois plus d'espace potager à Bruxelles qu'en 2015, qu'en 2020, 30% des ménages produiront une partie de leur alimentation en s'investissant dans des potagers ou en ayant chez eux un petit lopin de terre que ces ménages cultivent. Il y a un engagement à favoriser les circuits courts et donc une variété plus grande dans les systèmes de distribution. Il y a un engagement à favoriser les changements d'habitudes alimentaires par une information, notamment concernant la consommation de fruits et légumes de saison. Et il y a un encouragement à développer des potagers scolaires pour que les jeunes générations puissent reconstituer un lien avec leurs aliments qui a tendance à se dissoudre. Et donc, il y a toute une série de choses extrêmement intéressantes dans la stratégie Good Food de la région bruxelloise qui peuvent intéresser une initiative comme celle de la ferme du Champ d'Écailles. Parce que, peu à peu, ce qui se fait jour, c'est une sorte de récit collectif qui permet à chacun de comprendre qu'il n'est pas tout seul, que cette initiative n'est pas isolée, qu'elle s'inscrit, cette initiative, dans un ensemble plus vaste de changements qui sont de plus en plus vus par les autorités publiques comme méritant qu'on les soutienne. Alors, je termine en évoquant cette question qui me tient fort à cœur de la démocratie alimentaire. Je pense vraiment que les initiatives de transition telles qu'elles sont développées à l'échelle locale, par exemple par les initiateurs de la ferme du Champ d'Écailles, gagneraient à s'accompagner de la mise sur pied d'une dimension proprement politique qui appelle les gouvernements à différents niveaux de pouvoir à rendre des comptes et à accompagner ces initiatives de manière beaucoup plus efficace. Et la démocratie alimentaire, c'est cela. Ce n'est pas une utopie, cela consiste à créer des espaces institutionnels nouveaux. On appelle ça des conseils de politique alimentaire. Il y en a de plus en plus, non seulement aux États-Unis, au Canada, où le mouvement a commencé, mais aussi au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie. Et ces conseils de politique alimentaire sont des lieux délibératifs où les citoyens peuvent faire valoir leurs propositions, leurs revendications, entrer dans un dialogue qui va élargir l'imagination des politiques, permettre aux politiques d'être mieux informés au moment de faire des choix et de faire des arbitrages, car c'est aux politiques finalement de faire ces arbitrages. Et finalement, ça permettra aux initiatives de transition d'avoir un relais politique beaucoup plus systématique transparent. Et au fond, si on veut prendre au sérieux cette idée de démocratie alimentaire, on peut imaginer un cercle finalement vertueux où des structures participatives de gouvernance, à travers ces conseils de politique alimentaire, vont permettre à des acteurs d'horizons variés, avec des motivations diverses, de parler les uns avec les autres de la vision qu'ils ont pour développer l'agriculture, l'alimentation durable dans les communes bruxelloises en particulier, construisant entre eux des rapports de confiance et ce capital social que j'évoquais tout à l'heure, favorisant par conséquent la prise de conscience de la communauté qu'elle en forme une et qu'elle peut, non seulement dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, mais dans d'autres domaines aussi, faire valoir des revendications. Et je pense que cela peut déboucher sur des projets, non seulement à l'échelle d'un quartier, d'une commune, mais également sur des coopérations transcommunales, comme il s'en met de plus en plus sur pied. Voilà, ça c'est au fond les quelques réflexions que suggéraient les questions qui m'ont été transmises par Cécile et qui viennent de vous. J'ai vu une série de ces questions, certaines d'entre elles, je n'ai pas pu y répondre parce que ce sont des questions trop spécialisées qui requéraient une étude, notamment juridique, de la situation de la ferme du Champ des Cailles que je ne suis pas compétent à produire. Mais j'ai voulu, en m'inspirant des questions qui m'ont été transmises, vous montrer à la fois, enfin vous dire à la fois quelles sont les très nombreuses promesses de l'agriculture urbaine et des potagers collectifs en particulier, et en même temps quelques défis que peut-être nous pourrons réfléchir ensemble. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter une conférence donnée par Olivier de Schutter, professeur de droit international et membre depuis 2015 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Il était invité par la coopérative de la ferme du Champ des Cailles à Watermael-Boisfort. La conférence a été enregistrée le 24 septembre 2017.
Radio...
Oui ?
Campus ?
Oh.